L'émission littérature sur Radio Campus Orléans avec par téléphone Pierre Sange.
Bonjour
à vous, merci d'avoir accepté cette interview. Nous parlons donc d'Environ et mesure aux éditions Le Promeneur. Ma première question concerne ces savants, ces personnes qui veulent localiser des lieux imaginaires. Vous avez cette belle phrase au début de votre texte où vous vous demandez pourquoi localiser. Donc il y a ceux qui localisent un lieu imaginaire peut-être par réflexe comptable, il y a ceux qui le font par un réflexe de bourgeois comptable, et puis il y a ceux qui le font par passion dévorante. Vous avez cette jolie phrase: si les rêves enchantent au cours de la nuit, l'interprétation des rêves enchante beaucoup plus longtemps. Alors que cherchent ces savants, ces personnes, c'est presque ces fous littéraires qui veulent localiser des lieux imaginaires? Est-ce que c'est pour prolonger le temps de la lecture?
Oui, ça serait une bonne réponse. Peut-être une façon de résumer un peu toutes les propositions que je fais dans le livre. C'est vrai qu'au départ, je voulais plutôt me borner à faire une sorte de collection, une encyclopédie, mais purement collectionneuse de ces fous littéraires ou de ces chercheurs très sérieux ou des lieux imaginaires qu'ils voulaient localiser, d'en faire une liste et de profiter du plaisir de la liste un petit peu à la manière de Robert Burton par exemple. Mais quand même la quantité le nombre de ces chercheurs et de ces tentatives de découverte est tel que au bout d'un moment quand même se pose la question de savoir pourquoi, qu'est-ce qui motive ces gens-là. Et dans le livre, je propose quelques modestes hypothèses, des explications, mais elles ne valent pas grand-chose finalement. Elles se contredisent les unes des autres. Elles sont vraiment des hypothèses pour elles-mêmes. Elles n'ont pas d'autre statut que des hypothèses, c'est-à-dire des choses qu'on ne vérifiera jamais. Mais en faisant toutes ces hypothèses, je peux essayer de suivre un petit peu. D'essayer de me mettre dans la peau de ces chercheurs-là, puis d'essayer de me mettre dans leur esprit, d'essayer de découvrir pour les uns et pour les autres quelles sont un petit peu les motivations, des motivations qui sont parfois différentes, mais qui peut-être se recoupent sur des sujets très précis ou révèlent une nature humaine plus profonde et qui là pour le coup serait commune à tous ces chercheurs qui par ailleurs sont très différents les uns des autres.
Vous commencez environ une mesure par la localisation de la bourgade de Don Quichotte par oui. des universitaires et vous parlez d'un désenchantement. Est-ce que cette recherche universitaire concernant Don Quichotte n'a pas été un échec du coup?
Je ne pense pas, non. Enfin, je n'ai pas vraiment concrètement les résultats ni des nouvelles sur la suite de cette recherche-là. Mais je pense qu'on peut aller au-delà de l'idée du désenchantement. C'est vrai que la première impression qu'on peut en avoir, c'est une impression de désordre, de désillusion, de l'irruption du savant, du positiviste, du pragmatique dans le monde du rêve ou dans le monde de la littérature. Un petit peu à la manière de, je pense souvent à Vladimir Nabokov qui avait la dent très dure envers les Freudiens, Freud, cette école de Vienne. Et je pense que s'il avait la dent très très dure envers cette école, c'est parce qu'il se sentait en danger d'une certaine façon et qu'il n'aimait pas trop l'irruption des interprètes d'une autre catégorie dans son domaine. C'était un petit peu une chasse gardée qui était envahie par des ennemis. Donc on pourrait imaginer qu'effectivement, une interprétation rationnel, pragmatique, géographique, d'une littérature qui au départ est purement imaginaire est un désenchantement. Mais ce qu'on constate à chaque coup, et ça c'est presque inévitable, c'est que cette littérature-là, cette démarche-là scientifique, pragmatique, a priori prosaïque et terre à terre, fabrique un nouvel enchantement, un nouvel imaginaire, une nouvelle littérature qui est tout à fait fidèle et respectueuse finalement de son point de départ. C'est un petit peu comme ce que vous aviez évoqué tout à l'heure à propos du rêve et de l'interprétation des rêves. Moi je ne suis pas très sensible à l'onirisme en littérature ou au cinéma, surtout si c'est un onirisme exacerbé, enfin on baigne pendant des heures dans des nébuleuses de rêves. peut-être parce que j'ai un côté, je ne sais pas, peut-être des passions rationnelles ou rationalistes. Mais je trouve par contre que l'interprétation des rêves, même freudienne, même si on admet ou on suppose qu'elles sont fausses ou qu'elles reposent sur des a priori ou qu'elles correspondent à une vision de la société ou à une déformation scientifique de la chose, fabrique malgré tout un imaginaire, et parfois un imaginaire très puissant, parce que l'interprétation des rêves par Sigmund Freud, c'est aussi une réécriture et une recréation de mythes, quoi.
J'aimerais revenir à ces universitaires, donc du côté savant, qui ont cherché la bourgade de Don Quichotte.
Oui.
La manière dont vous les décrivez, on a l'impression d'avoir affaire à une bande de pieds nickelés. Vous vous moquez quand même un petit peu d'eux.
Oui, je me moque, mais étant donné que je pourrais très très bien, sans avoir les diplômes, me retrouver parmi ces gens-là, je fais partie aussi de ceux dont je me moque. Je ne voudrais pas m'en moquer de façon surplombante. Je me moque aussi de mon propre travail de pseudo-chercheur ou de mon propre travail de pseudo-interprète. Et effectivement, la scène est purement imaginaire pour le coup, hein. J'invente une scène d'après les maigres renseignements que j'ai pu avoir. Mais je l'imagine et je la fantasme telle que j'aimerais qu'elle existe. Ou qu'elle soit mise en scène dans une pièce de théâtre, par exemple, ou dans un livre. On pourrait très très bien imaginer une sorte de colloque de savants, comme on en trouve parfois chez Arnaud Schmitt ou cet auteur anglais, Leacock, qui aime se faire rencontrer des savants dans une maison, puis les faire parler pendant des heures et des heures. Voilà, c'est aussi j'ai pris plaisir à les imaginer, tout en supposant que cette scène imaginaire ne correspond pas forcément à ce qui a eu lieu. Alors, il y a sans doute une part de moquerie, mais j'espère que c'est une moquerie respectueuse et une moquerie qui puisse aussi se retourner contre moi-même, c'est-à-dire pas une ironie facile à l'égard de personnes qui perdent leur temps, mais un humour partagé et je ne m'exclus pas du tout de la bêtise ou de la naïveté ou de la volonté d'interpréter qui est commune à tout le monde.
Alors vous faites un peu presque une typologie des chercheurs de lieux imaginaires. Tout d'abord, on rencontre Aguirre.
Oui.
Vous nous parlez un petit peu d'Aguirre assez longuement, même sur la recherche de l'Eldorado, cette légende d'Aguirre. Vous dites que c'est pour lui cette recherche un peu, on va dire, imaginaire, c'était la meilleure façon de quitter le monde. Vous nous faites une description psychologique d'Aguirre. Vous dites que voilà, c'est sa meilleure manière de quitter le monde, que c'était l'Eldorado, mais que ça aurait pu être autre chose. C'était l'Atlantide pour d'autres voyageurs ou bien la route des enfers. À l'origine de ses voyages vers des contrées enchanteresses, il y a ce sentiment de ne pas être désiré chez soi, de traîner comme un paria, de devoir quitter au plus vite la compagnie des hommes. Cette recherche, par exemple, pour Aguirre, c'était une recherche d'absolu, une recherche de perte.
Alors peut-être, c'est encore une fois de ma part une interprétation complètement burlesque et qui ne repose sur rien d'autre que le plaisir d'interpréter. Je ne crois pas du tout détenir la vérité en ce qui concerne Aguirre. Mais il y a quelques points qui sont assez vrais. C'est Aguirre, c'était quand même un personnage, bon, comme nous le montre par exemple Werner Herzog ou tel qu'on en a des traces, un de ces personnages conquistadors très téméraires, très turbulents, dont l'Espagne n'était pas toujours mécontente de se débarrasser, parce que c'était aussi des forces en marche difficilement domptables. C'était une énergie qui difficilement canalisable, et une des seules façons, des rares façons de se débarrasser de ces hommes plus ou moins troubles, c'était de trouver un exutoire de l'autre côté de l'Atlantique et de les envoyer chercher non pas la clé du chantier, mais l'Eldorado. Alors l'une des hypothèses, c'était d'envoyer chercher cet homme-là l'Eldorado, sachant qu'il n'existait pas, pour que cet homme-là se perde et se perde avec sa folie. Là, ce que je suppose, moi, c'est une vision peut-être un peu romanesque ou romantique de la chose, c'est que Aguirre, d'une certaine façon, aurait pu ne pas être dupe de ce piège-là et aurait joué le jeu de chercher d'atteindre un horizon qui sans cesse recule devant lui, et de jouer le jeu, parce que ne se sachant détesté et refoulé par la société à laquelle il appartient, il n'a pas d'autre solution qu'une solitude un peu héroïque, un peu mythologique, et de disparaître à la fois au bout du monde et dans la littérature ou la fiction.
Et à l'inverse de Aguirre, l'aventurier suicidaire, si je puis me permettre, vous faites l'éloge des géographes sédentaires, et vous commencez par Lichtenberg, par exemple. Vous dites ils mettent au point pour eux-mêmes et pour le reste de l'espèce humaine une philosophie de l'immobilité. Est-ce plutôt ces géographes sédentaires que vous affectionnez? Et peut-être est-ce à cette catégorie que vous appartenez?
Oh, je ne sais pas si j'appartiens à cette catégorie-là. Seulement, je pense que d'une certaine façon, l'exotisme est une invention de sédentaire. Et qu'on pourrait imaginer que celui qui voyage... Enfin, il y a plusieurs façons de voyager, hein, mais celui qui voyage peut promener avec lui son ici et étaler son ici partout. Et finalement, s'il voyage de façon correcte, prosaïque, et s'il met vraiment les pieds dans un ailleurs, l'ailleurs devient un ici et il renonce d'une certaine façon à l'exotisme, parce que l'exotisme... Et là, il est sous ses pieds, donc il n'est plus de l'exotisme, il n'est plus un lointain, il est dévoilé, il est réifié d'une certaine façon. Donc, établir une certaine distance par la sédentarité ou par l'exil ou par l'attente, par l'éloignement de l'objet désiré, hein, par l'éloignement du moment d'accéder au voyage, d'accéder à la chose rêvée, ça c'est une façon peut-être de maintenir vivace le mystère, l'éloignement, l'exotisme, encore une fois, l'étrangeté des choses. C'est peut-être pour ça que, d'une certaine façon, certains voyageurs sédentaires m'intéressent, comme aussi, d'une certaine façon, Kafka, qui avait projeté des voyages en Italie, qui n'a pas pu les faire, des personnages de ce type-là.
Mais en même temps, vous nous prévenez aussi dans votre livre contre des géographes imposteurs. Je vais vous citer. Notre globe est peut-être devenu trop petit depuis la fin des grandes découvertes et la mort des forêts primaires, mais il reste assez vaste pour accueillir à la fois, sans bousculade, les vrais géographes et de sacrés imposteurs, les uns et les autres divertissant à leur manière. Il y a aussi ce risque-là pour les géographes sédentaires, non ?
Oui, bien sûr. Bien sûr, là, je pense que effectivement, l'imposture, le mensonge, n'est pas du tout réservé qu'à ceux qui ont vraiment voyagé et qui reviennent de loin. Hein. D'ailleurs, les catégories sont assez floues et à propos de Mandeville, par exemple, les avis sont assez partagés. Hein. Certains disent qu'il a son livre est une gentille imposture. Son livre de voyage, hein, essentiellement de recopies, d'interprétations, de bout à bout, d'autres lectures. Selon d'autres interprètes, il y a eu vraiment voyage et vraiment découverte. On peut dire la même chose, on a dit la même chose. Enfin, les débats sont assez vivaces aussi à propos de Pausanias, dont on a relevé pas mal d'erreurs. Il note l'existence de monuments ou de ruines qui, à son époque, n'existaient déjà plus. Donc ce serait la preuve qu'il n'y a pas mis les pieds, mais qu'il n'a fait que recopier des textes anciens. Mais d'autres, au contraire, disent que c'est un excellent observateur. Donc voilà, les catégories sont assez floues, et peut-être que ce livre, c'est une façon aussi de faire l'éloge du flou dans les catégories, de l'entre-deux, de faire l'éloge du demi-voyage et de la demi-découverte. Mais pour en revenir aussi à cette histoire de sédentarité, peut-être que parfois la distance est nécessaire. Alors, la distance sédentaire ou la distance au contraire par le voyage, pour réécrire une réalité, la réalité que précisément on a mise à distance. Un petit peu comme Joyce quand il a pu écrire Dublin quand il n'était plus à Dublin.
Très bien. Et entre les deux, entre ceux qui voyagent comme Aguirre et entre ceux qui sont sédentaires, il y a Victor Bérard. Voilà. Là, vous appesantissez sur Victor Bérard, et c'est un cas que je connaissais pas du tout, et du coup j'étais pris de... Oh, c'est stupéfiant, ça. Vous dites à un moment donné, Victor Bérard, lecteur arpenteur, a perdu 20 ans de sa vie, 20 ans de sa vie à la recherche d'une nymphe en Espagne.
Oui, alors, c'est même lui qui le dit dans son texte, dans ses écrits, qui sont très très beaux, très émouvants. Il y a cet aveu à un moment donné, voilà, donc Victor Bérard qui a passé beaucoup de temps à chercher, à localiser l'île de la nymphe Calypso, croit voilà, conclure à un échec, et il écrit « J'ai passé 20 ans de ma vie à courir après des chimères ». Et il y a une sorte de désillusion, et quelques temps plus tard, malgré tout, l'acharnement revient, le désir revient, donc il y a toujours quelque chose de très positif dans cette volonté de découverte, il y a un appétit quand même. Et il y retourne et il finit par découvrir, parce qu'il ne pouvait pas rester sur un échec, il finit par découvrir une île qui n'est pas exactement celle qu'il avait rêvée, mais qui peut correspondre grosso modo, en trichant un petit peu sur les faits, à cette île cherchée. Et là, il y a un autre passage qui est autrement émouvant, qui est pas du tout qui est l'inverse, le revers de cette tristesse, qui est au contraire un soulagement, une sorte de triomphe, le sentiment du devoir accompli, et puis d'avoir justifié ces 20 ans d'errance, d'une certaine façon, comme si Victor Bérard s'était métamorphosé en une sorte d'Ulysse moderne, un Ulysse pas positiviste, mais presque positiviste, qui essaye de calculer d'après les outils modernes et de se faire tour à tour géographe, géologue, sourcier, et pour voir un petit peu comment la nature qui s'était révélée à Ulysse maintenant se révèle à un homme moderne.
Parce que vous dites même, les périples de Victor Bérard en mer Méditerranée sont à leur manière une interprétation devenue une odyssée capable d'inspirer des interprétations. Ça, oui. C'est magnifique, ça. Il est du coup, vous vous intéressez, vous, à Victor Bérard, presque à la manière dont lui s'est intéressé à l'odyssée. Enfin, de manière quand même moindre, vous n'avez pas passé 20 ans sur Bérard, quand même.
Non, pas encore, mais... Mais c'est vrai que l'écriture de Bérard, ses textes méritent d'être lus comme des romans d'aventure, et c'est tout à fait passionnant. Il a parfois des intuitions assez excitantes, comme au détour d'une phrase, il propose par exemple de faire une histoire. Il pense qu'il est possible, qu'il serait possible de faire une histoire de la navigation par l'histoire du vol des cartes, parce que le vol des cartes d'un marin à un autre ou d'un géographe à un autre est pratiquement une tradition. C'est en tout cas ce qu'il a remarqué. C'est vrai que on a attribué à Christophe Colomb, par exemple, des vols de cartes. Et d'après Bérard, on pourrait très très bien faire une histoire de la géographie à partir de ce genre de détails. Donc ce genre d'intuition est parfois inattendu dans un livre d'histoire ou de géographie qu'on suppose plutôt terne, sérieux, très pragmatique, mais voilà, il y a une invention. Et pourquoi je me suis intéressé d'un peu plus près à Victor Bérard, c'est d'une part parce que ses textes sont là, alors que beaucoup d'autres exemples de localisation tiennent très, très peu de lignes, ou sont fugaces, ou sont des témoignages qui sont repris de bouche à oreille. Mais Victor Bérard a énormément écrit, il a écrit des choses vraiment passionnantes, et même si maintenant des connaisseurs d'Ulysse ou de la Grèce ancienne pourraient corriger ses textes ou débattre à son sujet, il y a quand même des merveilles dans ses textes, des merveilles d'écriture.
Alors, Victor Bérard voyage, mais Victor Bérard compte aussi. Il y a ce paragraphe qui m'a beaucoup plu. Je vais vous faire la lecture de votre paragraphe. Dans un chapitre de ses Navigations d'Ulysse, 1925, Victor Bérard fait le décompte des morts parmi les compagnons d'Ulysse, soit perdus en mer, soit avalés par le cyclope, à raison de deux par repas. Comparant ce nombre au nombre de marins qu'on peut raisonnablement embarquer sur un navire à cette époque, deux rameurs sur chacun des 25 bancs, plus le commandant, plus le pilote, à savoir 52 hommes, il pouvait en déduire à quel moment de son odyssée Ulysse s'est retrouvé tout seul, comme si le personnage de légende avait survécu au danger de la réalité, la vraie noyade. C'est quelqu'un qui compte.
Oui, et le plus curieux, c'est qu'il n'est pas le seul. Et là, on voit très bien dans cet exemple-là, dans cette situation, comment un certain enchantement, quelque chose de presque enfantin, un plaisir enfantin, à l'écoute de chiffres qui au départ sont des chiffres comptables et qui devraient au contraire nous arracher à l'enchantement ou au plaisir. Et cette presque, enfin, ce commencement de délire d'interprétation par le chiffre, cette précision qui fait penser à la précision ou à l'effort scientifique de Bouvard et Pécuchet. Il y a quelque chose de Bouvard et Pécuchet là-dedans, dans cette application obstinée, sans recul, a priori, sans humour de la science, qui pourtant provoque quelque chose de farfesque. Et voilà, c'est quelque chose d'un peu flaubertien de Bouvard et Pécuchet. Mais encore une fois, Bérard n'est pas le seul. Il y a Galilée qui a calculé le volume de l'enfer d'après la description de Dante, par exemple, et qui en a déduit la taille de Lucifer. Il y a aussi Athanase Kircher qui a essayé de calculer la taille de la tour de Babel au-delà de laquelle la Terre aurait basculé sur son axe. Enfin, il y a des choses magnifiques dans cette catégorie-là qui dépasse un petit peu la catégorie de la géographie, mais qui d'une certaine façon fait partie un peu du même travers spirituel, psychologique.
Oui, vous avez d'ailleurs cette anecdote sur Arnaud Schmitt, moi qui me plaît beaucoup, je vous cite. Le héros des scènes de la vie d'un faune, d'Arnaud Schmitt, se demande si le lit, donc le lit où on dort, si le lit construit par Ulysse sur une souche d'arbre enracinée ne finirait pas par pourrir rapidement. D'où il conclut qu'Homère était un piètre physicien.
Oui, c'est magnifique. Cette conclusion est magnifique. Oui.
Mais alors avec ces personnes, ces fous littéraires qui surveillent, du coup, je me surveille entre guillemets, qui surveillent les fictions, leur géographie, leurs mesures, leur exactitude de physique, est-ce que c'est la fin de la crédulité envers les histoires ?
Non, je pense pas vraiment. D'abord parce que la crédulité est, à mon avis, increvable. Je pense qu'elle est vraiment immortelle. En plus, on a pu remarquer, ça c'est une loi assez générale, que les sceptiques font de très très bons crédules, et que ceux qui prônent le scepticisme absolu finissent en général par ne douter de rien et finalement avaler tout. Hein, c'est le renversement qui s'opère en général dans les théories du complot. Une théorie du complot commence par un scepticisme. On ne croit pas à une réalité simple ou complexe qu'on nous expose et on lui substitue une réalité parfois beaucoup plus folle et qui suppose une crédulité beaucoup plus folle. Donc ça, c'est une crédulité qui survit. Alors elle a ses mauvais côtés, la théorie du complot, et elle a ses bons côtés. Ça peut être cet appétit de découverte, cette création de livres, cette recréation d'histoires. Et là, ça me fait penser à ce que disait Coiré quand il décrivait un petit peu l'apparition de la science moderne et de l'esprit moderne à la Renaissance. Alors, il le dit à tort ou à raison, on pourrait le contredire, mais l'idée est assez belle, c'est que pour que la science avance, il fallait aussi qu'elle soit crédule, d'où l'existence aussi, avec cette science moderne, de l'alchimie, de la médecine de Paracelse, de principes comme les esprits vitaux, les choses comme ça. Quoi.
Parce que là, on est tout de même dans la crédibilité des fictions. Vous écrivez plus vers la fin, je vous cite à nouveau, parce que vous avez des phrases magnifiques. C'est dans cette partie de l'impossibilité d'être nulle part. Vous écrivez « à moins d'être d'essence divine », ou de ne pas exister, ce qui est encore plus simple, il est impossible de ne pas se trouver quelque part. Une loi aussi implacable, venue des sciences dures, devait nécessairement s'appliquer aux lieux imaginaires. Parce qu'il leur est difficile de ne pas exister à la longue, de ne pas répondre à leur nom ou à l'ensemble de leur nom, et de ne pas avoir de forme. Là, on passe de là. Est-ce qu'on peut être crédule envers les fictions, et quelle crédibilité elles ont ? Elles ont parce que forcément, ça crée des lieux imaginaires qui prennent une place dans notre réalité à nous.
L'avantage avec les fictions, c'est que la crédulité, le pacte de crédulité qu'elle propose au lecteur est un pacte qui ne fait aucun dupe, ni d'un côté ni de l'autre. On sait qu'on est dans la fiction. Pour évoquer encore Nabokov, Nabokov joue très très bien sur le fait que ce qu'il écrit est de l'écriture, et il parsème sa prose de signes qui vont sans cesse rappeler qu'il est en train de jouer avec nous et que ce qu'il imagine est un conte de fées. Et il aime aussi rappeler que ce qu'on prend parfois pour des écrits réalistes, comme par exemple certains textes de Gogol, sont en fait des purs fables et que Gogol, la Russie que Gogol décrit est aussi une Russie que lui-même a apprise à travers d'autres fables, d'autres contes, d'autres racontars. Voilà. Donc l'avantage de la fiction sur certains autres textes ou certaines autres formes d'expression, ça devrait être ce pacte de crédulité, donc une sorte de pacte d'intelligence entre l'auteur et le lecteur pour se dire que voilà, nous sommes dans une fiction, elle nous permet de faire passer quelques petites choses sincères, quelques émotions sincères, quelques opinions sincères, que l'on exprime avec un certain détachement, mais nous sommes quand même dans la fiction, ce qui fait qu'il y a par-dessus tout ça, ou dans tout ça, un humour qui nous permet de nous détacher et de ne pas avoir affaire à un mot d'ordre ou à une prière ou à un slogan ou quelque chose de beaucoup plus ferme et de beaucoup plus définitif.
Alors, on va presque sur le rôle de la fiction, et vous avez un paragraphe où vous allez vraiment même plus loin sur le rôle que vous pourriez assigner à la fiction. Je vous cite encore assez longuement, mais c'est un délice. Seul importe alors ces lieux intermédiaires, l'homme semble vouloir s'y retrouver. Il veut pouvoir compter sur leur présence, d'où ils se trouvent, comme si la raison humaine, incapable de se convaincre de la réalité du réel, incapable d'admettre le surnaturel, pouvait seulement se familiariser avec la demi-mesure. Une créature intermédiaire, une créature privée d'absolu, voilà le genre humain, voué à l'échec du côté du matérialisme, à l'échec aussi vers le ciel des abstractions pures, ne trouvant de repos que dans un entre-deux qui pourra être, selon les cas, le romanesque ou la mystique. Le romanesque ou la mystique. Quel rôle assignez-vous à la fiction, Pierre Sange ?
Big, voilà, ça c'est une question très, très vaste. Je ne sais pas combien de temps j'ai pour y répondre. C'est difficile d'assigner un rôle, a priori en tout cas. Je me rends compte que la plupart du temps, je constate à peu près dans quelle direction va un texte que je suis en train d'écrire. Pas quand je l'ai achevé, mais en tout cas quand il est en grande partie avancé. Donc c'est pas tellement, je pense à l'auteur d'assigner un rôle à la fiction, mais c'est presque la fiction à assigner un rôle à l'auteur ou à assigner un rôle à elle-même ou à la lecture. Voilà, tout ça se fait en se faisant pendant le fait même de la lecture ou de l'écriture. J'aurais beaucoup de mal à signer un rôle. Alors, il y a des constats que je peux faire, encore une fois, a posteriori. Hein. Je me suis rendu compte, par exemple, en tant que lecteur, en tout cas, que, par exemple, la lecture de textes de Borges, qui a beaucoup joué sur le vrai et le faux, le vraisemblance, la vraie ou fausse citation, des choses comme ça, ne me rendait pas plus sceptique, mais d'une certaine façon, peut-être améliorer ma crédulité. Je pense qu'encore une fois, qu'on sera toujours des animaux crédules. Le plus difficile, ou ce qu'on devrait viser, c'est d'avoir une crédulité plus raffinée, plus subtile, qui joue plus efficacement avec ceux qui nous proposent des fables ou des vérités.
Alors je modifie maintenant un petit peu ma question. Quel rôle les fous littéraires dont nous venons de parler au cours de cet entretien, quel rôle assignent-ils à la fiction, eux ?
Certains de ces fous littéraires ne pensaient pas du tout, je pense, être dans la fiction. Il y a je ne crois pas que Victor Bérard, par exemple, ait eu l'impression d'écrire l'équivalent d'un Odyssée qui serait lu comme tel et d'avoir affaire à des lecteurs qui liraient ces livres d'histoire comme de pures fables ou de pur plaisir, parce qu'ils ne sont d'ailleurs pas que ça. Hein. Je pense que beaucoup de ces fous géographes, disons, ou de ces fous explorateurs se considèrent comme des essayistes ou des hommes qui sont plus proches de la science ou de la réalité. Alors après, quand on fait des digressions du côté de Nabokov ou d'Arno Schmitt, c'est autre chose, ou de Michelson Kuti, mais les autres, à mon avis, ne se pensent pas comme des ouvriers de la fiction. Peut-être qu'ils en tiennent compte, mais ils en tiennent compte à leur manière. Et parfois, il leur faut s'éloigner complètement de l'idée d'une fiction. Par exemple, considérer l'Odyssée d'Homère comme un livre réel, en tout cas dans ses références, ils sont obligés de s'en éloigner pour ensuite retravailler ce texte-là.
Je remodifie à nouveau ma question et on reparle de ce qu'on parlait au tout début, ces universitaires espagnols qui ont cherché à localiser la bourgade où vivait Don Quichotte. Eux, quelles étaient leurs motivations? Quel rôle assigne-t-il à Don Quichotte pour être à ce point-là, à chercher quelque chose qu'il n'avait pas à chercher, puisque cette bourgade, le nom de la bourgade, n'a jamais été spécifié dans Don Quichotte?
Eh bien, je ne sais pas si je saurais répondre à cette question. Je ne sais pas moi-même quel rôle j'assignerais, au Don Quichotte, et j'aurais encore plus de mal à imaginer ce que ces chercheurs-là supposent dans ce livre. En tout cas, ils se sont engouffrés là-dedans, je pense, avec une certaine facilité. Il y avait un vide dans les premières lignes du Don Quichotte. Il y avait une absence, il y avait un nom absent. Et d'une certaine façon, la nature ayant horreur du vide, les chercheurs se sont engouffrés dans ce vide-là pour lui substituer une réalité ou un nom. Je ne sais pas si ce nom-là a donné lieu a eu des conséquences matérielles. Je ne sais pas si la ville qui a été désignée a mis au point, a mis sur place un comité d'initiative, un office du tourisme pour se promouvoir en tant que ville du Quichotte. Mais en tout cas, ils l'ont fait. Alors, peut-être que malgré eux, la magie ou la machine du Quichotte a fonctionné encore. C'est une machine qui, s'il fallait lui assigner un rôle, est une machine à créer de l'imagination, puis à recréer d'autres livres. Finalement, ce sont des livres qui s'engendrent les uns les autres. C'est peut-être ça, finalement, la fonction involontaire des livres.
Ma dernière question portera sur une question de méthode, la documentation que vous utilisez. Je vous imagine en train de lire tout le temps des livres d'histoire, j'entends des livres de la discipline historique. Est-ce que vous ne les lisez pas comme des livres contenant des potentialités d'histoire à écrire par vous?
Oui, d'une certaine façon. Alors parfois, l'attention se relâche et je lis ces livres sans forcément y chercher des choses. Mais c'est vrai que je suis malgré tout toujours plus ou moins en alerte et j'aime feuilleter, lire, reprendre des livres pour y chercher ce genre de faille précisément, pour y chercher une incitation à l'écriture, pour y chercher des anecdotes parfois très, très minimalistes ou très discrètes, mais qui pourraient donner lieu à des scènes, à des personnages, ou à des situations, ou à des paradoxes. Effectivement, je les lis comme ça, comme des incitations, comme un librettiste d'opéra cherche un sujet pour un opéra futur, quoi.
Une ultime question, je ne peux pas m'empêcher, après la réfutation majeure, après Fragment de Lichtenberg, c'est vrai que je me suis posé la question de qu'est-ce que vous trouviez de si fascinant à cette période moderne, du 16e au 18e siècle, c'est votre quand même grande période phare, qu'est-ce qui vous captive, vous fascine, vous stimule tant dans cette période pour que vous en fassiez votre période fictionnelle à vous?
Alors, j'avais pas pensé que j'en avais fait vraiment une période. Enfin, j'ai pas voulu m'accaparer comme ça quelques siècles, ou en tout cas ça s'est fait peut-être malgré moi. Peut-être que la production littéraire scientifique et le mélange des deux de ces époques-là m'inspire. Encore une fois, comme on disait tout à l'heure, ce qu'évoquait Alexandre Coiré, cette alliance nécessaire d'une méthode scientifique moderne inventée par Galilée précisément, et d'une curiosité, d'une crédulité nécessaire à l'avancée de la science. Peut-être que tout ça me fascine beaucoup. J'aime beaucoup, c'est vrai, l'esprit des Lumières, pour sa curiosité et pour le recul qu'ils ont pu avoir par rapport à leurs propres croyances, ce qui n'empêchait pas quelqu'un comme Lichtenberg, par exemple, d'avoir et d'avouer ses propres superstition. Voilà, c'est peut-être ça qui fait ce mélange-là de, pour le dire vite, de rationalisme et d'irrationalité ou d'appétit, de curiosité sans beaucoup de limites, avec les moyens de le faire, avec les moyens de la découverte et les moyens de les écrire. C'est peut-être ça qui rend cette période riche, en tout cas en documents, et riche en histoire et riche en aventures intellectuelles aussi.
Pour clôturer cette interview avec vous, je vais parler dans quelques minutes de Contes de la Lune, essai sur la fiction et les sciences modernes de Frédéric Aïtouati, qui est paru dans la collection NRFSC chez Gallimard. L'avez-vous lu ?
Non, pas encore.
Très bien. Bon, c'était, nous allons nous arrêter là. Puis j'ai parlé de ce livre-là parce que du coup, c'est c'est vraiment en lien avec vous parliez. Donc, merci beaucoup, Pierre Sange, d'avoir répondu à mes questions au téléphone. Merci beaucoup à vous. Bonne soirée.